Voilà, nous commençons le daf Aïn Tet Amoud Alef. On va reprendre deux lignes dans Aïn Tet. On a déjà fait un premier passage de Aïn Tet. Nous reprenons quand même pour plus de clarté. Je rappelle, c'était l'enseignement de Rabbi Khanina dans Aïn Tet Amoud Bet, qui disait que si le mari n'a entendu le vœu et il se tait, Almenat Lemikat, pour simplement taquiner sa femme, pour lui donner l'impression qu'il n'est pas prêt à lui consentir la fara, comme ça elle prendra leçon de plus jouer à faire des nedarim en comptant sur sa fara. Alors cette shtika n'a aucune incidence, même si la journée, et même plus qu'une journée passe, il pourra toujours se réserver l'option de la fara. Voilà ce que nous dit Rabbi Khanina, c'est un chidouche révolutionnaire. Ça veut dire que ce que la Torah a dit, que la journée de Yom Shomo, elle passe sous silence, et Chirishla, c'est pas n'importe quel silence. C'est un silence, ou peut-être neutre, qu'il a ni consenti au vœu, ni pensé annuler. Mais s'il a l'intention d'annuler, même ultérieurement, au-delà de la journée, il a toujours la chance d'être méfait. Alors sur ça, on essaye d'objecter. On reprend en bas de Aïn Tet Amoud Bet, deuxième ligne. Metiv Rav Chisda. Chomer be'akem mi be'afer ou be'afer mi be'akem. Il y a des chumrot dans Akama par rapport à Fara et inversement. Et on développe. Chomer be'akem, la chumra de Akama, c'est par exemple she'ashtika mekayemet ve'enshtika mevatelet. Il suffit de laisser passer la journée silencieusement que ça s'appelle une shtika. Pardon, que ça s'appelle un kiyum. Il y a kiyum passivement, c'est ça que ça veut dire. Tandis que à hafara, ça ne se fait pas magiquement, passivement. Deuxièmement, kiyem belibo kayam. S'il a confirmé le vœu dans son cœur sans rien dire, eh bien ça s'appelle une akama. Tandis que hafara belibo eno mufar. La fara du cœur, c'est rien du tout. Faut le dire. Point. Alors, ici, sur le din de Afara Balev, via Marloket Rishonim, dans le roche, ça s'entend que c'est Meikara Din, que c'est une exigence de la Torah. Parce que sinon, peut-être, il y aurait le problème, comme certains l'expliquent, Dvarim chez Balev. Tu n'as pas exprimé. Comment tu veux que ça marche, ta Afara, si tu ne l'as même pas exprimé? Ça reste au niveau du cœur, ce qui n'est pas exprimé et qui n'est qu'au niveau du cœur, ça compte pas. Mais dans le Tosfot ici, on voit que c'est que des Rabbanan qu'on a besoin d'exprimer. Mais Mina Torah, ce serait bon même s'il ne l'a pas dit. Ah, il y a le principe de Dvarim Shebalev et Nam Dvarim. Sur ça, on explique qu'il y a des Shitot dans les Rishonim, que Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, c'est uniquement quand ça va à contresens de ce que je dis ou je fais. Mais si ça va à contresens de rien du tout, même que je l'ai uniquement pensé, ça compte. C'est pourquoi il faudra dire d'après Tosfot que c'est que des Rabbanan que la fara doit être émise verbalement. Très bien. Maintenant, d'où on sait que Hakama Balev, ça marche, Loran a fait sa démonstration. Sur ça, il y avait une question très forte de Rabbi Akivega, je crois qu'on l'a certainement mentionné. Et sur ça, sur laquelle il y a plusieurs réponses dans la charonim. On va maintenant avancer. Kayam in, pardon. Kiyem en yachol afer, efer en yachol et kayem. Nouvelle étape dans la braïta. Cette fois-ci, on n'est pas avec les chumrot de l'un vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on est en train de dire un din qui s'adresse à l'un et à l'autre. T'as fait akama, c'est fini, il n'y a aucune chance de faire afara. T'as fait Afara, c'est fini, il n'y a aucune chance de faire Akama. Comme quoi, chaque pas que tu auras fait, c'est un pas décisif et définitif. Ensuite, nous, maintenant, on va exploiter cette braïta. Katani, she'ashtika mekayemet. C'est bien mentionné que l'ashtika, c'est mekayem le vœu. Maïla veshotek almenat lemikat. N'est-ce pas qu'on parle de quel silence, même d'un silence, que c'est almenat lemikat? Pour taquiner. Et quand même, ça s'appelle Akama en fin de journée. Ça contredit Rabbi Khanina, dit la Gemara, pas du tout. Lo beshotek almenat lekayem. C'est quand il se tait, un silence de consentement. Si son silence est une démarche comme pour consentir, ça peut se traduire de différentes façons, un silence. Tout dépend de ce qu'il a dans la tête. S'il a gardé silence, ça veut dire je lui fais pas fara, je veux ce neder, je confirme le vœu. Si c'est un silence de consentement, alors voilà, c'est une akama. Mais si c'était un silence avec l'espoir de faire afara même plus tard, et qu'aujourd'hui il s'abstient de lui faire l'afara juste pour la taquiner, alors ce silence est anodin. Demande à Gmara, mais si c'est ça le shotek dont tu parles ici dans la Braïta, hayinu kiyem belibo. C'est exactement la même chose que kiyem belibo. Encore une fois, la Braïta, elle a relevé deux chumrot. Une chumra que le hakem, ça se fait bishtika passivement. Et une chumra que même au niveau du cœur, si tu as pensé confirmer, c'est confirmé. Mais si tu traduis que shotek, c'est le shotek du consentement. Mais c'est égal consentement, c'est égal kiyem. Kiyem belibo, c'est la même chose. Il a consenti au vœu silencieusement. Ben c'est kiyem belibo. C'est pas deux chumrot. Donc tu peux pas traduire ça dans shtika mekayemet. Et là, c'est quoi le sujet de shtika mekayemet? Et là, beshotek stam, on parle qu'il se tait de manière indéfinie. Il n'a pas une intention claire dans sa tête. Il se tait. Ah, il aurait pu penser, je veux confirmer le vœu. Ou il aurait pensé, non, je me tais, mais c'est anodin, c'est rien du tout, c'est juste pour la faire monter au ciel, mais en réalité, c'est tout. Mais j'ai pas du tout l'intention de renoncer à la fara, j'y pense bien, j'y compte bien. Ça peut être ça peut tout être. Mais il n'a rien défini. Alors c'est ce qu'on appelle le silence stam. Comme il est dans un silence indéfini, la Torah, elle dit que oui, au terme de la journée, ça s'appelle akama. Si bien que pour ce qui est de Rabbi Chanina, on peut se maintenir avec son chidouche que shtika lemikat, ce n'est pas une shtika. Il pourra toujours faire afara. Ashkechan. Alors j'ai traduit la Gemara ici comme l'Oran et le Tosfot nous l'explique. Que shotek almenat lekayem, ça voulait dire un silence de consentement. Pas avec l'intention d'être mekayem, que ce soit mitkayem en fin de journée. Non, avec l'intention d'être mekayem là, immédiatement, par son silence. Appelle ça silence de consentement. Ça, la Gemara demande, mais c'est la même chose que kiyem belibo. Et la Gemara répond, eh ben non, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de shotek stam. On aurait pu dire que c'est shotek almenat sheit kayem en fin de journée. Mais c'est, ça va aussi. L'un ou l'autre, on aurait pu dire. Ensuite, Ashkechan, Chomer, Beakem, Ibeafer, ça c'est juste une mise au point. On a vu dans la Braïta, puisque maintenant on a répondu à la question, on veut juste comprendre ce que la fin de la Braïta nous annonçait. Qu'il existe des Chumrot dans Afara par rapport à Hakem. Alors l'Agma a dit, les Chumrot de Hakem, on les a développés. Ashkechan, Chomer, Beakem, Ibeafer, c'est dit, la Braïta a relevé deux Chumrot. Beafer, Ibeakem, Enalan. En quoi trouvons-nous dans Afara une Chumra par rapport à Akama? Marabi Hanan, Nishalin al Hakem et Nishalin al Afer. C'est qu'on peut faire Akama. Pour une Akama, on peut faire Shelat Chacham, mais pas pour une Afara. Loran avait dit dans Nafsa Mertet que pour une Akama, ça va dans le même sens que la Shelat Chacham pour le Neder. La Akama, elle conforte, elle consolide le vœu. Comme il y a Shelat Chacham pour annuler un vœu, il y a aussi Akama pour annuler la Akama. Il y a aussi, Shelat Chacham pour annuler la Akama. Mais pour annuler une Afara, ça commence même pas. Si ce n'est que la Gemara l'avait envisagé parce qu'il y a un Hekesh entre Afara et Akama. Mais finalement, on y avait renoncé. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ici, que sur le affaire, il n'en est pas question. Et donc, il n'y a aucun fondement à ça. Et c'est tellement invraisemblable que ça ne s'inclut pas dans le Hekesh. Point. Metiv Rav Kana. Alors on revient à la charge, toujours contre Rabbi Chanina. Veimacharesh acharishla isha vegome. La Torah dit si le mari garde silence toute la journée, alors c'est adjugé. Beshotek almenat lamikat akatuv medaber. Le Tana fixe que cette shtika de la Torah ici mentionnée, c'est une shtika pour taquiner. Il lance un chidouche, mais après il se remet en question pour un instant. L'idée et la démarche, c'est est-ce que j'ai bien vu ou non ? Alors il va se fonder, il va se justifier que c'était bien ça le sujet. Ataomer beshotek almenat levikat, oena ela beshotek almenat lekayem. Est-ce que tu le dis comme moi ou non ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Que le pasouk parle nécessairement de shotek almenat lemikat ? Ou peut-être que non ? Il parle d'un shotek almenat lekayem ici. Loran et Tosfot explique c'est pas le shotek almenat lekayem mentionné plus haut, que j'avais traduit comme un silence de consentement. Ici, shotek almenat lekayem, ça veut dire il garde silence toute la journée, au risque qu'en fin de journée, ce soit mekouyam. Il est conscient que la journée passe, ce sera mekouyam. Eh bien, il garde silence malgré tout, avec l'intention que ça devienne mitkayem en fin de journée par son silence de la journée. Alors, peut-être c'est uniquement de ça que la Torah elle a parlé. Mais un shotek almenat lemikat, c'est pas autant. Comme on a vu, il y a une logique. Lui, il se réserve la chance de faire affara. C'est juste un silence de façade pour donner l'impression à sa femme qu'il veut pas lui consentir l'affara, mais rien de plus. Peut-être que ça, c'est pas une shtika déterminante. Alors, la braïta continue. Que chez Omer qui a harishla. Ce sujet de Shotek Almenat Lekayem, il est déjà mentionné. Pour avoir gardé silence le jour où il a appris le vœu. Donc c'est déjà mentionné un silence. Qu'est-ce que je fais de ce pasuk de silence répété dans la Torah? C'est pour induire encore un chidouche, une autre sorte de shtika. Beshotek almenat lemikat akatuv medaber. Je sais bien que le pasuk nous parle, comme nous l'avions annoncé au début, de shotek almenat lemikat. Et même que c'est qu'un silence de façade juste pour taquiner sa femme, eh bien, ça vaut silence et ça vaut akama. En fin de journée, le vœu est mekouyam. Donc voilà, la braïta est explicite sur le sujet de Rabbi Hanina. Et pasouk à l'appui, elle tranche et elle fixe que ça s'appelle shtika, ça s'appelle akama. Et on ne peut plus revenir sur ça. Comment il fera Rabbi Hanina ? Dit la Gemara Tiyuvta, il n'y a pas le choix. C'est une objection contre Rabbi Hanina. Voilà une braïta clairement établie, contraire à Rabbi Hanina. Demande la Gemara maintenant, sans revenir sur la Tiyuvta, simplement pour mieux comprendre le positionnement du Tana de la braïta. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit deux fois « silence ». Le mari, il sait « tu » qui est « kherishla ». Et il a aussi écrit le « imacharesh yacharish » si « silence, il garde ». Donc il y a deux fois, alors ça induit deux sortes de silence. Un silence, c'est « almenat lekayem ». Qu'en fin de journée, il est conscient que ce sera mitkayem, et quand même il se tait, alors c'est mitkayem. Et un silence, almenat lemikat. Et pourquoi tu ne dis pas à la place d'almenat lemikat, le silence qu'on a appelé précédemment shotek stam? Ça aussi c'est intéressant que la Torah l'inclut. Et du coup, shotek almenat lemikat ne serait pas inclus. Pourquoi le Tana n'a pas pris cette position? On est conscient, il y a deux fois la notion de shtika dans la Torah, donc ça induit deux sortes de shtika, très bien. Mais on a deux autres, encore autres que shotek almenat lemikat. Donc laisse tomber shotek almenat lemikat. Ne l'inclus pas dans les psukim. Réponse. Graye tire ktive. Il y a des psukim en plus. Dans la Torah, il y a encore un troisième. Alors, les Rishonim nous disent le qui est Kherishla, ça compte pour un. Et Imacharesh Yacharishla Isha, ça compte pour deux. On n'a pas dit Imacharishla Isha directement, le verbe conjugué. Si se taire, il se tait. Là, il y a une redondance, ça fait deux. Au total, il y a trois. Donc, au final, ça donne Yan l'Ashtik Almenat Lekayem, ça c'est sûr, la Torah te dit c'est un silence qui est déterminant. C'est quoi Almenat Lekayem ici? Ça veut dire gardez silence en étant conscient que se taire en fin de journée, ça s'appellera Hakama. Il est conscient, se tait quand même, ça c'est sûr, ça s'appelle Hakama. Plus même shtika stam. Stam, c'est neutre. Il n'espère pas nécessairement faire une afara. C'est pas un silence de consentement. C'est pas non plus un silence avec la conscience qu'en fin de journée, ce sera fichu. Et quand même, ce silence de stam, ça vaut silence et ça fait akama en fin de journée. Et le troisième pasouk, ben forcément, c'est ce que le Tana dit. C'est pour inclure la shtika de Almenat Lemikat, que ça aussi, ça joue. T'as laissé passer la journée silencieusement, même si c'est qu'un silence de façade, parce que tu voulais lui faire croire que « mais t'avais bien l'intention de faire Afara plus tard, c'est trop tard. » Ça s'appelle Akama. Tu voulais faire Afara, t'avais que cette journée, fallait le faire aujourd'hui. Et donc, c'est encore une tiyuvta de Rabbi Hanina. Pardon, ça c'est une première tiyuvta de Rabbi Hanina. Et on a compris maintenant pourquoi le Tana a pris cette position, qu'il y avait trois psukim pour trois sortes de shtika. Maintenant, deuxième objection, Metivrava. Nadra im chashecha meferla tchelo chashecha, c'était dans notre Mishnah, on disait, quel est le délai pour la fara? C'est oto ayom. Oto ayom, c'est la journée en cours. Donc si c'est Shabbat, et qu'elle a fait son vœu un peu avant Motsei Shabbat, il pourra lui faire la fara que maintenant, malgré que c'est Shabbat. Et que normalement, à Tarat Nedarim, on ne fait pas Shabbat, sauf si c'est Tzorecha Shabbat. Mais à Afara, on tolère. Pourquoi? Et la Mishnah justifie. Elle dit, Shimlo Efer Vechashecha, parce que s'il n'a pas fait la Afara avant qu'il ne fasse nuit, et Noyachol Leafer. Maintenant que c'est la nuit, ce sera fini. Ce sera fichu pour toujours. Alors, comme il va perdre la chance de faire la Afara, on ne peut pas, nous, Rachamim, lui interdire une Afara Shabbat. On lui permet. Contrairement à Tara, qui est Asur Midrabanan, parce que ça ressemble à Din, comme on a vu. Mais Afara, c'est autorisé selon le Tana de la Mishnah. Tout ça a été vu. En tout cas, qu'est-ce qu'on remarque dans cette Mishnah? Qu'un silence, shtikal, menat, lemikat, ça compte? Ça s'appelle Akama. Comment j'en ai la preuve? Parce que ici, pourquoi il se tait? Non pas pour consentir, il brûle d'envie de faire Afara à toute seconde. Chachamim nous disent, mais c'est Shabbat! Imagine qu'on avait fait une mesure des Rabbanan d'interdire Afara Shabbat. Parce que, chez la Chacham, on l'interdit, Gzera Atudinim, et que Afara avait été inclus dans la Gzera. Alors lui, pourquoi il n'aura pas fait de Afara tout de suite? Parce qu'on l'a empêché. Mais il espère bien faire Afara même au-delà de Motsei Shabbat. Mais dans un tel cas, selon Rabbi Hanina, il n'a pas perdu sa chance. Alors pourquoi la Mishnah dit on ne veut pas lui perdre sa chance? Allez, on lâche du lest et on tolère la Afara Shabbat. Non? Ce n'était pas du tout un problème, même si la nuit tombait. Ce n'est pas pire que Shotek Almenat Lemikat. C'est ce que la Gemara demande. Donc forcément, que le Tana considère que Shotek Almenat Lemikat, c'est une shtika qui est déterminante, ça s'appelle une akama. Et c'est pourquoi le Tana te dit... Faut lâcher du lest, faut qu'on lui tolère la fara, même Shabbat, parce que sinon, passé Motsei, ce sera fini. Tiyuvta, c'est encore une tiyuvta de plus qui se rajoute contre Rabbi Hanina. Et encore une troisième, et Tivravashi. Yodeya ni shesh nedarim avaleni yodeya shesh mefirin. C'est un sujet plus loin dans les Mishnayot. Si un mari l'a dit, parce qu'il a raté le jour de la fara. Il a entendu hier matin. Il a laissé la nuit tomber. Et qu'il n'a pas fait d'Afara, on lui dit, monsieur, c'est trop tard. Il dit, ah, mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire une Afara. Ah bon, tu ne savais pas que le mari peut faire Afara le jour de la Shmiya? Alors ça ne s'appelle pas que tu as entendu. Ça ne s'appelle pas Yom Shmiya. Tu as encore la chance de faire Afara. Alors aujourd'hui, dépêche-toi de faire Afara. Ce soir, ce sera trop tard. Dans les mots, Yodea Nish Yesh Nedarim. Si le mari se justifie pourquoi il n'a pas fait l'Afara à temps le jour même, en disant, je savais qu'il y avait des vœux. J'étais conscient que ma femme a fait tel et tel vœu, je l'ai entendu. Aval el yodea shesh mefirin. Mais je ne savais pas que ça existe. Qu'un mari, il a un recours et il peut effacer le vœu. C'est pour ça que j'étais silencieux toute la journée. Yafer, il peut encore faire la fara. Le jour où il va apprendre la loi que le mari, il a un recours sur le vœu de sa femme, il aura toute la journée pour faire la fara. Parce que ce sera ça la vraie journée de Yom Shom'o. Shmiya, c'est pas le tout de savoir que sa femme, elle a un vœu. La Shmia, elle est mentionnée dans la Torah en tant qu'indice que le mari consent au vœu. Comment ? Il a entendu et il est conscient qu'il peut tout de suite, s'il voulait, annuler. Il a toute la journée pour le faire et quand même il a gardé silence. Alors la Torah interprète ça comme un consentement et le vœu, il est mekouyam. Mais s'il a entendu sans savoir qu'il avait un recours, qu'il pouvait faire une afara, alors son silence ne veut pas dire qu'il a consenti, il n'a pas confirmé le vœu. Alors lorsqu'il apprendra à ce principe que le mari a un recours, il pourra encore faire afara, ce ne sera pas trop tard. Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, si c'est le contraire, il dit « Yodéani Shechmeferi, je connaissais la loi qu'un mari, il a des recours sur certains des nédarim de sa femme. Avaleni Yodéani Shechmeferi, mais je ne savais pas que c'était un des nédarim sujet à Afara. Je sais qu'il y a plusieurs catégories de nédarim, d'ailleurs on va voir le sujet plus tard, et que pas toutes catégories de nédarim sont sujets à la Afara du mari. Et donc moi je ne savais pas que ce type de nédarim, ça fait partie des prérogatives du mari, pouvoir les effacer. Alors quoi ? Est-ce que ça s'appelle Yom Shom O ? Rabbi Meir Omer lo yafer. Ben oui, il a entendu. Et il savait qu'un mari pourrait potentiellement effacer des vœux. Bon, il n'a pas cherché à savoir ce vœu précisément. Ok, mais ça s'appelle un silence de sa part. Et en fin de journée, c'est Mekouyam. Vachachamim Amrim Yafer, il peut encore faire cet afara au-delà de ce jour, parce que ça ne s'appelle pas Shmia. Shmia, c'est quand tu as entendu et le vœu, et que tu sais que ça existe, afara, et que afara s'applique à ce type de vœu. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient que tu avais dans la main l'option afara, concrètement. Alors ce silence est déterminant en fin de journée. On l'interprète comme une akama. Bon, en tout cas, c'est machloket qu'on verra plus loin. C'est juste une machloket sur est-ce que ça s'appelle shmia ou non. Mais Rabbanan sont bien d'accord avec Rabbi Meir que si ça s'appelle une shmia, eh bien c'est l'oeil à faire. Mais pourtant, ve'amai, selon Rabbi Chanina, on va se demander l'ive keshotek alminat lemikat. Ça devrait être simplement une shtika. Pas pire qu'Almenat Lemikat, puisque là, il nous dit, j'ai jamais voulu renoncer à la Afara, au contraire. J'aurais bien voulu, mais je savais pas que je pouvais faire Afara. Et quand même, parce que ça s'appelle Shmia, dans le cas de la Seifa, on te dit que c'est trop tard. Tu vois bien que Shomei Almenat Lemikat, c'est une Shtika. Pardon, Shotek Almenat Lemikat, c'est une Shtika. Et le vœu est Mekouyam. Effectivement, c'est une Tiyuvta de plus. La Gemara conclut Tiyuvta. Pourquoi trois Tiyuvta ? Ran, touche un mot sur ça. Si jamais on avait moyen de répondre à la première, il y aura la deuxième. S'il y avait moyen de répondre à la deuxième, il y aura la troisième. La Gemara, par sécurité, elle ramène une de trois pour dire, voilà, tant qu'on n'a pas résolu ces trois références, le din de Rabbi Chanina, pour nous, il est réfuté. Maintenant, le Ran y conclut à la Chalemassé, puisqu'il y a eu Tivta de Rabbi Chanina. Ça donne que si le mari était Shotek, Almenat, Lemikat, c'est comme Shotek Stam. On a vu, il y a trois exemples de Shotek. Il y a Shotek, silence, au risque que ça fasse Akama en fin de journée. Il en est conscient. Ça, c'est le top. Il y a le silence neutre. Il n'a intention ni que ce soit un silence de Hakama immédiat, ni qu'il est consentant qu'au terme de la journée ce soit Mitkayem, il n'y a pas pensé, ni qu'il se réserve le droit de faire une afara pour plus tard comme Shotek Al-Matamika. Tous les Shotek à la même enseigne. Tous les Shotek de la journée, ça équivaut à Hakama. Ashtika, Mekayemet, ça comprend ces trois. Et on avait trois psukim pour fonder ça. Mais maintenant, s'il a eu ce genre de silence, en début de journée par exemple, il doit vite faire de faire la fara le jour même. Il doit se dire, en fin de journée, ce sera trop tard. Ça s'appelle une shtika qui vaut akama. Maintenant, si les shotek almenat, les kayem, les altar, le Ran nous dit que tout de suite, c'est à juger.
Parce qu'un silence de consentement, la Gemara l'a comparé à Kiyem et Liban. C'est comme quand le mari décide fermement, je valide, sauf qu'il ne l'a pas exprimé verbalement. Ça s'appelle Akama, Yesh Akama Balev. Alors il existe une shtika qui est aussi Akama Balev. C'est une autre façon de traduire Akama Balev. Imagine que son silence, il le fait dans cet esprit. Parce qu'il se dit dans sa tête, je veux ce neder. Non, je ne veux pas le faire sauter, je veux. Là, ça s'appelle Kiyem Belibo. Et c'est immédiatement Mekuyam, on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas à la fin de la journée, c'est déjà maintenant que ça s'appelle Mitkayem, parce que positivement, activement, il a confirmé le vœu. Sans le dire, mais formellement, ça a été décidé dans sa tête. Hadran alach, nara morasa. Veilu nedarim, c'est un nouveau perek. Et là, on va voir quels sont les nedarim qu'un mari, comme on a vu à l'instant, pas tous les nedarim, le mari est habilité à annuler. Quels sont ce genre de nedarim? Alors, on trouve dans les psukim, un pasuk, kol neder vechol shevuat issar le'anot nafesh, tout neder ou shevua de s'interdire quelque chose qui consiste en un inouï nefesh, une mortification, une privation qui est une souffrance pour la personne. Ishah yekimenu, beishah yeferenu. C'est son mari qui aura le dernier mot, ou d'être mekayem, ou d'être mefer. Donc on a compris dans ce pasuk qu'une première catégorie de nedarim, c'est ce qu'on appelle inouï nefesh. C'est ce que la Mishnah nous dit, veilu nedarim shu mefer. Voici les nedarim que le mari il pourra annuler. Certains disent que le père, c'est la même chose, puisque les sujets se suivent dans la Torah. La fara du père pour sa fille. Ensuite, on parle de la fara du mari pour son épouse. Alors, c'est le même genre de nedarim qui seront sujets à la fara du père pour sa fille, comme du mari pour sa femme. Comme ça, c'est la plupart des rishonim. Même que la sugya n'en parle pas, mais ça vaut autant pour le père vis-à-vis de sa fille. Alors, il s'agit de nedarim comment, de quelle nature? Tvarim shiesh ben inui nefesh. Faut que le neder y porte sur quelque chose qui représente une souffrance à la personne que de s'en priver. Et on donne des exemples. Imerrat, vimlorrat, imet kachet, vimloit kachet. Se baigner ou ne pas se baigner. Se kishut, ça veut dire s'embellir. C'est les soins esthétiques du visage. Oui ou non, on a ici quatre formules qu'il va falloir interpréter, comprendre. C'est la Gemara qui est là pour ça. On ne comprend pas trop parce que ce n'est pas un langage de neder. A priori, c'est un langage du tnaï d'un neder. Un neder, c'est je fais le neder de ne pas ceci ou cela. Là, il y a écrit si jamais. Si jamais je suis mis de cachette, je m'interdis autre chose si jamais je suis mis de cachette. Donc le kishut, c'est que le tnaï du neder. C'est pas trop. On n'a pas très bien saisi pour l'instant, la Gemara précisera l'intention. Mais en tout cas, entendons par là un neder qui a un enjeu sur quelque chose qui est une privation pour une femme, telle que kishut ou bien rechitza, alors ça s'appelle inouï nefesh. Mais c'est que la vie de Tanakama. Amarabi aussi, en ilou nidre inouï nefesh. Non, c'est pas ça, inouï nefesh. C'est pas encore du niveau qu'on peut appeler inouï nefesh. Oui, d'accord, c'est une privation, mais ce n'est pas suffisant pour être reconnu comme inouï nefesh, une souffrance plus profonde, plus pénible. Mais loin de nidre inouï nefesh, alors il s'en va nous dire, lui, son exemple de nidre inouï nefesh. Par exemple, Amra konam perot haolam alai, si elle a fait un vœu de ne pas manger les fruits du monde, ça veut dire les fruits en tout genre. Arrêté, il y a quoi à faire. Ça, le mari peut effacer, parce que c'est bel et bien un éder de inouï nefesh. Cette fois-ci, même d'après Rabbi aussi, c'est reconnu comme un inouï nefesh. Par contre, Perot Medina alai, si elle a interdit les fruits d'un pays particulier, disons les fruits de Nouvelle-Zélande, alors Yavila Mimdina Acheret, le mari peut lui amener des perrots d'ailleurs. Et donc, il n'y aura pas de hafara possible. C'est pas inouï nefesh. C'est quoi? C'est une souffrance de se priver des fruits de tel pays ou de tel autre pays? Il y a tellement de provenances possibles que tu n'as pas besoin. Ça ne s'appelle pas une souffrance pour réclamer à Pharaon. Le mari ne pourra rien faire contre ce vœu. Perotren vanisé alai. Si le vœu qu'elle a fait, c'est les fruits, que vend ce renvani. Et non, yachol est à faire. Le mari ne pourra pas parce que. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ce renvani qui fournit des perotes. Tu ne peux pas aller chez cet épicier, tu iras chez un autre. Un peu plus loin, ça va. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne s'appelle pas une souffrance. Ce n'est pas une effèche. Tu iras faire tes courses un peu plus loin, c'est tout. Veivlo aita parnasato elamimen ou. Mais si le mari ou cette famille n'avait sa parnassa, ça veut dire ne se fournissait que chez ce renvani. Ça veut dire qu'ils avaient des arrangements avec ce renvani. Le renvani leur donnait la nourriture à crédit. Ils payaient la note à la fin du mois. Et ce genre de petits arrangements, tu ne l'obtiens pas facilement chez n'importe qui. Tu vas aller chez un autre épicier parce que tu as fait un éder que de celui-là, tu ne profiteras pas de ses perotes. Mais ça peut t'amener très loin. Ou tu vas trouver un autre épicier qui te fera les mêmes arrangements. Des fois, le mari n'a pas les moyens. Elle va acheter des fruits. Elle va aller pas chez ce renvani à cause d'une éder. Alors elle va chez un autre. Et l'autre ne lui fera pas le même arrangement. Et il n'y aura pas de quoi payer. Et elle revient bredouille. Elle va avoir faim. Elle va souffrir de la faim. Ça s'appelle inouï nefesh. Ça, d'accord. Donc, nous dit Rabbi aussi lui-même que des fois... quand elle a mis un trait sur les perrottes d'un renvani, des fois c'est inouï nefesh si jamais il y avait des arrangements particuliers avec lui. Arezé yafer de Rabbi aussi. Là, oui. Maintenant, le Rav nous dit, au même titre, on peut imaginer que pour Perot Medina, ce soit la même chose. Par exemple, si la Medina qu'elle a désignée dans le vœu, c'est son propre pays, ça veut dire les fruits locaux. Je m'interdis. Ça veut dire qu'il va falloir ramener des perrottes de très loin, des autres pays. Mais dans ce cas-là, elle peut avoir faim des fois. Elle va souffrir parce que c'est pas comme ça en un clic qu'on ramène les fruits d'ailleurs. Et donc, de la même manière que pour le renvani, si c'est pas le renvani du coin avec lequel on a nos arrangements et nos facilités, et qu'après avec d'autres renvani, ce sera, et j'aurai pas toujours les fruits, que j'aurai pas toujours moyen d'acheter à ma faim selon mon besoin, il s'avère que j'aurai faim. Ça s'appelle une nefesh. La même chose, la Médina mentionnée dans la Mishnah plus haut, c'est pas Médina Zou. D'ailleurs, le mot Zou, je ne l'ai pas lu. Dans la marge, ils l'ont supprimé. Et ça s'entend comme ça dans le Ran. Que elle n'a pas dit Médina Zou. Le Ran est dit, si elle avait dit Médina Zou, alai, les fruits de ce pays, là, le pays, la France, alors ça veut dire que pour manger des fruits, tu dois ramener d'Espagne et d'Italie, mais tu ne les as pas en un clic. Des fois, tu auras faim quelques jours avant d'en avoir. Alors là, c'est inouï nefesh. C'est bien sûr qu'on peut faire la fara, dit Loran. Sur quoi Rabbi aussi l'a dit, Perot Medina. Eh bien, c'est pas inouï nefesh. Parce que Yavi Lamim Dina Cheret, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est quand tu dis, je m'interdis les fruits d'Italie. Ok, tu prends plus d'Italie, alors prends d'Espagne. C'est un choix comme un autre. L'un vis-à-vis de l'autre, c'est pas plus inouï nefesh. C'est pourquoi ça rentre pas dans inouï nefesh. Gemara. La Gemara s'étonne parce que tout ce que la Mishnah présente comme Nedarim, sujet à Pharaon, c'est Inouï Nefesh. Comme j'ai lu le Passouk, effectivement, dans la Torah, clairement, on parle d'un Neder qui est une mortification, une souffrance pour la femme, que c'est, oui, le mari. Le mari, il est à même d'effacer. Ishar Yekimenu ve Ishar Yeferenu. Mais on connaît encore autre chose. Demande la Gemara Nidre Inouï Nefesh, ou des Mefer, Shen Ben Inouï Nefesh, Inouï Mefer, et des Nedarim qui ne sont pas Inouï Nefesh, quoi, le mari a aucun recours. Vatania Mein Braïta nous dira que Ben Ishli Ishto Ben Avlebito, c'est le passouk final à la fin du passage des Nedarim dans Parashat Matot. Eh bien, de ce passouk Melamed, ça nous enseigne Shabal Mefer Nedarim chez Beno Lebena, que oui, le mari peut faire la fara des Nedarim qui concerne. Et qui impacte le couple. Si le mari se sent concerné par ce vœu, ça lui gâche la vie, alors c'est une raison pour le mari d'annuler le vœu. Sur ça aussi, la Torah lui a donné le recours. Donc il y a le neder qui est mitzad, le inouï nefesh de la femme elle-même. Ça, c'est clairement établi explicitement. C'est ça là. Et que kol neder v'chol shevoal, v'chol shvatisar la not nefesh, isha yekimenu, isha yeferenu. Mais il y a aussi les nedarim qui s'appellent beino le bena, comme c'est marqué dans le pasuk, ben ish le ishto. Ça fait allusion à une nouvelle catégorie de nedarim, que même si pour elle, c'est pas vécu comme une souffrance à ce point-là, mais parce que ça impacte le mari, c'est ça, ben ish le ishto, eh ben il a le dernier mot, il peut faire un affaire. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas fait ressortir? Et elle met le doigt uniquement sur une catégorie et pas l'autre, comme si ça exclut l'autre. Mais c'est pas vrai. L'autre aussi, il y a l'option affara. Amré, on répond comme ça. Halin valin mefer. Effectivement, cela ainsi que cela, ces deux catégories, bénéficient du din de l'affara. C'est vrai. Mais où cependant, il y a une différence. Le Tana n'a cité qu'une catégorie parce que la loi n'est pas la même pour l'une et pour l'autre. Inouï nefesh mefer leolam. S'agissant d'un éder de inouï nefesh, ça, le mari, il a un recours de afara qui serait une afara définitive. Jamais ce vœu ne reviendra plus jamais. Avalen ben inouï nefesh, mais s'il n'y a pas de inouï nefesh, il y a quoi donc? Il y a simplement, c'est un éder qui s'appelle beno le bena. Ça impacte le mari. Alors, kid ita techute, tant qu'elle est encore tartave, c'est une expression qui veut dire tant qu'elle est encore mariée. Avia afara, la afara, elle court, elle est effective. Miki megaresh la, mais aussitôt qu'il l'aura divorcée, chayil ala nidra, son vœu reprendra place, reviendra. Parce que, comme la Torah lui a donné un droit sur le vœu de sa femme, parce que ça l'indispose à lui, ça l'impacte à lui, c'est ça beno le bena. Alors dans la mesure où ça l'impacte, mais une fois qu'il la divorce, ça n'impacte plus, alors le vœu peut revenir. Quand c'est par rapport à la souffrance de elle, la personne qui a fait le vœu, la Torah t'a donné un droit de effacer, annuler ce vœu, alors tu l'effaces pour elle, par rapport à elle. C'est donc elle, elle continue à vivre, tant qu'elle existe, elle est concernée par cette souffrance, et donc cette affaire, elle est éternelle. Peu importe si elle est encore ta femme ou non, mais quand c'est Mishum Beno le Bena, autant qu'elle est sa femme, oui, et dès qu'elle ne l'est plus, eh bien le vœu revient. Bidvarim Shebeno, et on précise, Bidvarim Shebeno le Bena, Shen Ben Inui Nefesh. Nous avons parlé ici de Dvarim Shebeno le Bena, qui ne comporte pas de Inui Nefesh vis-à-vis d'elle-même. Avaliesh Ben Inui Nefesh, mais si c'est les deux à la fois, c'est Beno le Bena et qu'il y a dedans aussi Inui Nefesh, bien sûr que Lochaïla le Nidra, son éder ne revient pas après le divorce. Ok. Donc on a ici une première option pour répondre pourquoi le Tana il a omis tout un dossier. Il y a les nédarim de Beno le Bena. Pourquoi on l'a occulté? Voilà que le mari il est habilité, même sur ce genre de nédarim. Réponse: le Tana se restreint sur une catégorie parce qu'il parle d'une afara qui est éternelle, définitive. Alors il nous dit, une afara définitive, c'est que dans une ouïe nefesh. Mais une afara qui n'est pas définitive, on est bien d'accord, on convient, ça existe. Ce sera le sujet de Beno le Bena, d'accord, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. C'est pour ça, ce n'est pas présent dans la Mishnah. Demande la Gemara, mais est-ce que c'est vrai cette affirmation? Qu'aussitôt divorce, le Neder revient, et ça veut dire que si le Neder revient, c'est même si après il la réépouse. C'est ça que ça voudra dire, forcément, que même s'il la réépouse lui-même, le vœu revient, et là, il ne pourra plus l'effacer. Et n'a pas le faire bakodmin, ce sera trop tard. Est-ce vrai? Védvarim, chen, baen, inouï, nefesh, kimégar, eshla, chayla, ala. Aussitôt qu'il la divorce, le neder retrouve sa place. Elle est astreinte au vœu à nouveau. Et même si elle réépouse, se marie. Véatnan, et pourtant, Mishnah. Rabbi aussi ben Uri Omer Yafer Shema Igar Shena Vetea Suralo. Quel est ce sujet? Une femme, elle a dit, voilà, Konam Masé Adai, Konam Shani Osa Lepicha. Tout ce que je produis, je cuisine, etc., c'est interdit à ta bouche par Neder. Elle dit ça à son mari. Alors actuellement, ça n'a pas d'impact parce que même si elle veut faire un vœu, comme elle est Meshoubé d'être les Bala, ce service, elle le doit à son mari, cuisiner, etc. Elle ne peut pas le priver de ce qu'elle lui doit par un vœu. Un vœu, normalement, ne fait pas sauter un chiboud. C'est un sujet qu'il faudra revoir, mais en tout cas, ici, c'est ça le principe, c'est que son éder n'a pas la force de faire sauter ses obligations, son devoir, son chiboud qu'elle a envers le mari. Donc, c'est pas besoin de faire de la fara. Ça n'a pas d'impact. Rabbi Yohanan ben Uri dit bien sûr qu'il y a affaire. Il a tout intérêt à faire afara. Dans l'immédiat, tu as raison que ça n'a pas d'incidence, un tel vœu. Mais à l'avenir, qu'est-ce que t'en sais? Parce que tu sais que si tu n'es pas à l'afara aujourd'hui, alors le neder, il va prendre. Quand? Pas pour aujourd'hui, parce que tant que mariée, ben, elle lui doit son maseya daim, elle ne peut pas l'en priver, d'accord. Mais imagine qu'un jour, il la divorce et il veut la réépouser, il ne pourra pas. Parce que du coup, le neder, il aura été khal. Et là, il voudra profiter. Et il voudra profiter. Et donc, ce sera un sourd. Et c'est pourquoi il a tout intérêt à faire une afara. C'est une afara de prévoyance. Comme ça, Rabbi Yochanan ben Nouri le conseille. Qu'est-ce qu'on va de là? Que quand il fait la afara au début, s'agissant d'un éder qui est uniquement Beno le Bena, est-ce qu'il y a une louis nefesh dans ça? Rien du tout. Mais il y a ici une question de Beno le Bena, ça impacte le mari. Ça dérange le mari. S'il a fait la afara une fois, eh bien, ça ne reviendra pas. La afara, elle est définitive. Tu m'as dit que la afara de ce genre de nedarim qui s'appelle Beno le Beina n'est pas définitive. Aussitôt après divorce, ça revient. Et c'est pour ça que la Mishnah n'a pas mentionné ce sujet. Elle n'a parlé que de afara définitive. C'est pourquoi elle réserve ce din à la catégorie de Inui Nefesh. Mais elle est tout à fait d'accord qu'il y a un din de afara pour des nedarim Beno le Beina. Sauf que c'est limité. Alors c'est pourquoi ce n'est pas notre sujet. Mais comment tu dis que c'est limité? C'est limité que quand il va divorcer, le neder revient. Mais c'est pas vrai. Là, je vois une lucarne qui s'ouvre dans la Mishnah avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Je vois qu'il nous dit de faire une afara de prévoyance. Elle n'a pas d'effet immédiat parce que le vœu n'est pas effectif à ce stade. Mais s'il la divorce, le vœu devient effectif. Et quand il veut la réépouser, il est astreint par ce vœu. Et ce sera impossible. Alors, prévois à l'avance, fais la afara. Mais ça veut dire qu'en faisant la afara maintenant, tu as prévu le coup. Tu as évité que le issour revienne, que le issour du neder s'applique lorsque tu la remaries. Mais pourtant, on a dit qu'une afara pareille n'est pas pour toujours. Elle est limitée tant que c'est sa femme. C'est une question. Et à cause de cette question, on va devoir rajuster la réponse. Amré, alors on dira comme ça. Halin ve'alin, on va dans la même démarche toujours. Bien sûr, on doit reconnaître, d'après le Tana de la Mishnah, que Halin ve'alin avia afara. Il y a la afara du mari pour ce genre de vœux ou ce genre de vœux, que ce soit Inoui Nefesh ou que ce soit Benon le Bena. Alors pourquoi on n'a pas mentionné la deuxième catégorie? Et là, Nidre Inoui Nefesh, Mefer, Ben Atzmo, Ben Acherim. En Ben Inoui Nefesh, Ne Atzmo, Mefer, L'Acherim, Enon Mefer. Voilà, une fois de plus, on a réussi à trouver une différence. Alors pas la différence qu'on a proposée jusque-là, mais une autre différence. C'est ce qui justifie pourquoi on a mentionné Inoui Nefesh. Plus que Benon le Bena. Inoui Nefesh, c'est une afara qui est soit par rapport à lui-même, soit par rapport à autrui. Mais Benon le Bena, c'est uniquement pour les Nedarim, quand il veut faire l'afara, par rapport à lui-même, par rapport à autrui, non. Bahri Katani, voilà comment le Tana enseigne. Et le Nedarim, chez Oumefer, Ben Atzmo Ben Acherim. Voici les Nedarim qui fait une afara totale. Indifféremment, soit pour lui, soit pour d'autres. Ce sont les Nedarim chez Beninoui Nefesh. Maintenant, qu'il y a aussi une afara pour des Nedarim d'une autre catégorie, c'est vrai, mais ce ne sera pas Ben Atzmo Ben Acherim. Léatzmo. Qu'est-ce qu'on a gagné avec Léatzmo? On a gagné que le cas de Rabbi Yochanan ben Nouri, Nedarim, Shebeno Lebena, c'est le sujet de Rabbi Yochanan ben Nouri. Le Massé Yadaim de la femme, ça impacte le mari. Il n'y a pas de Inunefesh vis-à-vis d'elle. Alors en tant que Beno Lebena, il veut faire une affaire, Rabbi Yochanan ben Nouri te laisse comprendre clairement que oui, l'affaire d'aujourd'hui, elle tient même après le divorce. Oui, mais parce qu'il peut la réépouser. Et tant que ça concerne Atzmo, alors cette affara, elle a une, elle se concrétise, elle se maintient. Mais dès que c'est les Acherim, ça ne concerne plus lui-même le mari. Alors non, alors ici comme ça. Les Atzmo, même si ce n'est pas pour l'immédiat le vœu n'a pas été chal. Mais s'il veut la remarier un jour après divorce, le vœu aura déjà été chal. Alors ça te concerne à toi, même que c'est pas le ça te concerne au présent, ça te concerne peut-être au futur. Alors oui, ça s'appelle Beno Lebena. Ah mais c'est pas Beno Lebena au présent? Alors l'Achroni m'explique, ça s'appelle Beno Lebena au présent parce que ça le gêne et ça le dérange de savoir que si un jour il veut la remarier, il pourra pas manger de sa cuisine. Donc déjà maintenant ça le gêne moralement. Ça s'appelle Bénon le Bénin, ils se sont impactés par ce vœu. Et à ce titre, il peut faire l'affara. Mais cette affara, elle roule pour toujours en ce qui le concerne lui, c'est-à-dire par rapport à sa relation avec elle, si un jour il se remarie avec elle. Par contre, dès qu'elle sera à Kherim, c'est-à-dire elle aura reçu les Kiddushin de quelqu'un d'autre, c'est fini, l'affara n'a plus aucun sens. Parce que l'affara de Bénon le Bénin, c'est vis-à-vis du mari. Mais là, il n'y a plus vis-à-vis du mari, puisque le mari l'est mis hors jeu pour toute la vie. On sait très bien qu'une femme qui est divorcée de son premier mari, si elle reçoit Kiddushin d'un autre mari, plus jamais elle reviendra avec le premier. C'est fini. Même si le deuxième y divorce, elle est assoura au premier. Et donc, c'est ce qu'on dit, il est acherim dès qu'elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a plus aucune chance pour lui de se remarier avec elle. Donc ce neder n'a aucune incidence sur Beno le Bena entre lui et elle. Ça ne l'impactera plus jamais. Alors la hafara, elle n'a plus une raison de se maintenir, elle s'envole, et la femme est de nouveau astreinte au vœu. Voilà la limite de la hafara concernant les nedarim chez Beno Lebena, et donc c'est ce qui fait pourquoi la Mishnah n'a pas mentionné cette catégorie. Bien qu'elle en pense pas moins, mais elle ne l'a pas mentionné parce qu'elle se concentre sur une catégorie de hafara, où la hafara elle est totale, définitive. Il s'agit, c'est Ben Leatzmo Ben Acherim, il s'agit de nedarim, Chalinoui Nefesh. Alors, prochain passage, on le laisse pour demain, parce que c'est un début de développement qu'on ne pourra pas. Très bien et bonne journée. Chazak Baruch.
Chazak Baruch.